grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 1er juillet 2014. Bienvenue à ce deuxième numéro du Grand Dialogue de la semaine. L'émission parlera aujourd'hui de la visite du médiateur de la CEDEAO au Mali. Trois volets seront évoqués dans ce débat. Le bilan de la médiation de la CEDEAO. Quel agenda à prévoir aujourd'hui après cette visite? Cette visite est-elle celle de la dernière chance? Nos invités, Amadou Goïta du Parti Socialiste, Sourakata Simega du Parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara, Drissa Diawara, politologue, et Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA depuis la Mauritanie. Merci messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Péting Diara est à la technique. En visite officielle de travail et d'amitié de deux jours, le président Compaoré a rencontré hier plusieurs personnalités maliennes. Le visiteur du jour est le médiateur de premier rang de la CEDEAO dans la crise qui secoue le pays depuis l'invasion des trois régions septentrionales du pays par les djihadistes. Grâce à son implication et à son leadership, un accord a pu être signé entre les différents belligérants. Dès son arrivée, le président Blaise Compaoré estime utile d'aller vers la préservation des acquis en faisant référence à l'accord du 18 juin qui a eu notamment le mérite de permettre l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans toutes les régions du pays, y compris Kidal. Toujours selon lui, le président Blaise Compaoré, les Maliens veulent vivre dans un espace unitaire, veulent vivre sans extrémisme, vivre réconciliés dans un État laïque, donc républicain, veulent arrêter la guerre et organiser le cantonnement, le désarmement et faire ramener les déplacés. Le bilan de cette visite, nous allons en débattre tout au long de cette émission, mais d'abord le bilan de la médiation de la CEDEAO avec vous, Amadou Goïta.
Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord dire bonsoir aux auditrices et auditeurs de la radio Tamani en ce mois béni de Ramadan. Priez pour que chacun puisse passer ce mois dans des conditions les plus acceptables. Le bilan de la CEDEAO, je pourrais dire que la CEDEAO a joué un rôle extrêmement important. C'est grâce à sa médiation, grâce à son intervention, tant sur le plan militaire que sur le plan politique, et surtout sur le plan politique, puisque les trois résolutions qui ont été votées en faveur du Mali, que ce soit la résolution 2085, 2075, 2100 et la quatrième, je pense que la CEDEAO a été au devant de la scène. C'est ça qui a permis d'ailleurs à l'Union africaine et après la France et à l'ensemble du Conseil de sécurité d'accompagner le Mali à la sortie des crises. Ça qui a amené également l'opération Serval et l'AMINUSMA, comme vous le savez, pendant la longue crise que nous avons connue, la CEDEAO était toujours au Mali ici. Pour boucler la boucle, c'est grâce à cette médiation également que le Mali a connu un retour définitif dans la normalité constitutionnelle avec les accords de Ouaga, accord qui nous a permis de tenir les élections présidentielles partout au Mali, y compris Kidal, accord qui nous a permis également d'organiser les élections législatives. Donc je pourrais dire sans me tromper que la CEDEAO a joué un rôle extrêmement important dans la crise malienne.
Alors, nous ne pouvons pas faire le bilan de cette médiation de la CEDEAO sans pour autant demander l'avis de la partie des groupes armés. Nous avons Ataï Ag Mohamed qui intervient depuis la Mauritanie, membre du MNLA. Ataï, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, si on vous demandait aujourd'hui, Ataï, de nous faire le bilan de cette médiation de la CEDEAO, quel serait ce bilan?
Bon, permettez-moi d'abord de dire bonjour à tout le monde et de profiter de votre radio pour souhaiter bon Ramadan à tout le monde. Et pour nous, je pense qu'on peut déjà faire les ramassis du bilan de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui nous, en tout cas les MNLA, qui ne sont pas qu'un groupe armé, nous sommes un groupe politico-militaire, avec bien sûr des instances politiques. Nous avons toujours dit que la CEDEAO a joué son rôle. Et jusqu'ici, c'est la partie malienne à un moment donné qui avait dit qu'il fallait retirer la médiation au Burkina Faso. Nous avions entendu des discours du ministre marin des Affaires étrangères à l'époque, qui étaient des propos devant d'être diplomatiques. Cependant, nous avons toujours reconnu à la CEDEAO son grand rôle dans la médiation qui a permis d'abord l'installation d'un président légitimement élu. avec qui les groupes politico-militaires d'Azawad auront discuté dans la prédéfinité. Ça peut être avec une transition. Et aussi, c'est la CDAO aussi qui a fait pour mener la grande marge de la campagne au niveau international pour que la menace terroriste soit prise au sérieux. Cette menace terroriste qui venait complètement essayer d'avaler les caractères politiques du conflit. Et ça, aujourd'hui, nous reconnaissons à la CDAO. Et c'est bien aussi qu'elle s'est remanifeste une fois avec l'appui de l'Union européenne qui, il y a quelques jours, a envoyé son émissaire à Ouagadougou, chose qui a accéléré les choses. Donc, pour nous, le bilan, il est positif. Et aujourd'hui, la médiation.
Alors, Ataï, je m'excuse de vous interrompre, mais nous allons essayer de vous demander un tout petit exercice, c'est de vous déplacer un tout petit peu. Nous ressentons un peu d'écho dans vos propos. Nous allons vous rappeler. Le studio va vous rappeler, mais vous restez avec nous tout au long de ce débat.
D'accord. C'est bon maintenant. Merci, bonjour.
Alors, Surakata, avant de revenir avec Ataï, Surakata, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan de la CDAO, de la médiation de la CDAO?
Bonsoir aux auditeurs du réseau Tamani. Je pense que le grand frère Goïta a tout dit. C'est un bilan qui est assez positif parce que c'est grâce à cette CDAO-là que nous sommes revenus à l'ordre constitutionnel. Nous avons rejoint le giron des démocraties, des États dits États démocratiques. C'est toujours grâce à cette médiation burkinabé que nous avons eu les accords préliminaires de Ouaga qui ont permis l'organisation des élections à travers l'ensemble du territoire national et d'avoir un président légitimement élu. Donc jusqu'à maintenant, je trouve que le bilan dans son ensemble, il est positif, même s'il y a des petits couacs, mais ça se comprend. Dans toute médiation, il y a des problèmes.
Alors, nous allons demander à Drissa Diawara, politologue. Drissa, pourquoi cette visite du président Blaise Compaoré intervient maintenant?
Bon, la médiation de la CDAO, à un moment donné, c'était bien parti. Maintenant, comme les choses se sont stoppées, il faut à un moment donné reprendre pour que ça ne fasse plus de dégâts matériels vis-à-vis de la population malienne. Et que ces gens ont décidé aujourd'hui, le MLA a décidé aujourd'hui de revenir sur la table de négociation avec la partie malienne. Maintenant, on va voir sur quelle base réellement nous allons démarrer. Les négociations vont se dérouler où, dans quelles conditions, quels sont les avantages et les inconvénients. Tout est à définir maintenant dans la visite du président, Blaise Compaoré.
Okay. Alors, Amadou Goïta, est-ce que cette visite traduit la volonté de la CDAO de reprendre la main pour la suite du processus qui semblait un peu être guidé par l'Algérie?
Oui, je crois que la CDAO revient par la grande porte, comme vous le savez. Au lendemain de l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, conformément à l'accord de Ouaga, il était stipulé que 60 jours après, les négociations devaient démarrer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça a été des déclarations souvent de bat-en-guerre. On a même récusé pendant un moment le médiateur Blaise Compaoré, à travers les propos du ministre des Affaires étrangères à l'époque Zahabi, toute chose qui mettait un peu en froid le Mali avec ses partenaires, surtout le médiateur qui a été désigné par la CDAO, à la personne de Blaise Compaoré. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les événements de Kidal qui nous ramènent dans ça. Les événements du 17, les événements du 21. Vous savez, comme le dit l'autre, la seule alternative à la paix, c'est la guerre. Malheureusement, nous avons fait la guerre, le 21. Nous avons perdu la guerre. Nous avons compris maintenant que seuls, nous ne pouvons rien. Nous avons compris qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On n'aurait dû pas perdre 10 mois pour recommencer à la case de départ. Nous, à l'époque, on a tiré sur la sonnette d'alarme en faisant savoir au gouvernement en place, sinon au président de la République nouvellement élu, qu'il était opportun d'engager des pourparlers, qu'il était opportun de faire en sorte que... Parce que c'est qu'on a aujourd'hui, le Mali va dans ses négociations en position de faiblesse. Ce que tu n'as pas obtenu par les armes, tu ne peux pas l'obtenir. Surtout, nous, on a tenté de l'obtenir par les armes. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas Kidal seulement que nous perdons, c'est pratiquement tout le Nord. Donc ce retour de Blaise, du président du FASO, qui au-delà d'être président du FASO est le médiateur de la CEDEAO, ça veut dire que le médiateur de l'ensemble des pays, les 16 États de la CEDEAO, qui a accompagné la signature de l'accord de Ouaga, accord également qui a été paraffé par l'Union africaine, par l'Union européenne, par le Conseil de sécurité. On aurait dû rester dans cet accord de Ouaga. Malheureusement, on ne l'a pas fait, nous avons perdu 10 mois. Mais aujourd'hui, nous espérons qu'avec la reprise du dialogue, et de comprendre aussi que autant on a voulu récuser pendant un moment le Burkina, autant l'Algérie n'est pas exempte de tout reproche quant à la gestion de cette crise.
Alors, Ataï Ag Mohamed, j'espère que la ligne est meilleure. Ataï, qu'est-ce que vous pensez de ce retour de Blaise Compaoré sur la scène aujourd'hui? Est-ce que cela écarte la médiation algérienne?
Est-ce que vous me retenez bien maintenant?
Oui, allez-y. Est-ce que vous avez compris ma question?
Oui, j'ai bien compris votre question.
Allez-y.
Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je souhaite quand même féliciter mes professeurs pour leur excellent résumé de la situation, surtout les derniers intervenants qui a bien exprimé le fait que la CEDEAO soit vraiment les acteurs incontournables, parce que c'est grâce à la CEDEAO aujourd'hui qu'au Mali, il y a un président qui pourrait bien sûr être un interlocuteur légitime face au groupe politico-militaire de la ZAWAT, chose qui est vraiment essentielle. On a assez tourné finalement, tout le monde a compris qu'il faut revenir à celui qui t'a permis de respirer. Parce que la CEDEAO aussi, si on se rappelle bien, à un moment où le Mali était vraiment à genoux, était la seule institution sous-régionale qui criait au secours contre le terrorisme dans cet espace-là. Et aujourd'hui, on a vu que la dimension sécuritaire avait complètement presque étouffé les caractères politiques du conflit. Et les événements de Kidal ont permis de comprendre qu'il faut s'atteler sur la question politique. Parce que les armes utilisées par les mouvances politiques sont des fois plus difficiles à maîtriser que ceux qui sont utilisés par des mouvances terroristes qui sont identifiés par tout le monde.
Ataï?
Donc pour nous, oui.
Ataï, nous nous battons contre le temps. J'ai posé une question. Oui, je demandais...
L'Algérie, nous n'avions jamais rejeté la médiation de la CEDEAO. C'est la partie malienne en premier qui a tenu des propos officiels avec un discours loin d'être politique pour rejeter toute présence du Burkina Faso dans la médiation. C'est aussi la partie malienne qui a eu l'initiative, qui a encouragé surtout l'implication algérienne presque en tant que médiateur dans la question.
Et que devient l'Algérie dans tout ça aujourd'hui?
Nous n'avions jamais dit que l'Algérie est médiateur. L'Algérie a offert ses bons offices comme n'importe quel pays dans le monde qui pourrait le faire. Nous l'avions accepté comme ça et nous avions toujours dit que aujourd'hui, la question de la ZAWAD ne pourra être réglée que par la médiation dirigée par une institution sous-régionale appuyée par les Nations Unies et un pôle de chef d'État. Un État aujourd'hui n'est pas en Afrique, surtout dans la sous-région frontalière, qui puisse être le seul médiateur de la question. Il faut une institution sous-régionale, bien appuyée par les Nations Unies et avec un pôle de chef d'État pour régler politiquement et durablement la question du conflit à Rwanda Mali.
Merci beaucoup, Ataï. Vous restez avec nous tout au long de ce débat. Les deux autres auront la parole juste après quelques secondes de pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Chers auditeurs, merci de rester fidèles au Studio Tamani et à ses programmes. Nous sommes à la deuxième partie du Grand Dialogue qui passe en revue la visite du président burkinabé Blaise Compaoré au Mali. Le président Blaise est le médiateur de la CEDEAO. Pour rappel, c'est sous son leadership que le Mali a pu tenir les dernières élections présidentielles et législatives après la signature entre le gouvernement et les groupes armés d'un accord préliminaire de sortie de crise. Cette deuxième partie sera consacrée à l'agenda à prévoir prévoir pour la suite des négociations. Nos invités, Amadou Goïta du Parti Socialiste, parti de l'opposition, Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA qui intervient depuis la Mauritanie, Sourakata Simega du Parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara, Idrissa Diawara, politologue. Alors, Sourakata, les deux partis, le gouvernement malien et les groupes armés tiennent aujourd'hui à l'application stricte de l'accord de Ouagadougou. Est-ce que cet accord ne comporte pas aujourd'hui quelques anomalies, puisque les négociations sont bloquées et pourtant les deux parties sont pour l'application de cet accord?
Je pense qu'il y a plutôt eu un problème d'interprétation. Parce que le Mali, comment le Mali voyait les choses? Nous, on souhaitait que ces gens-là désarment. Parce qu'on ne peut pas négocier avec des gens qui sont en armes. Eux, de leur côté, quel argument ils avancent? Tant qu'ils n'auront pas gain de cause, ils ne peuvent pas désarmer parce qu'ils n'ont pas de garantie. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure garantie que la communauté internationale, les Nations Unies qui se sont impliquées dans la résolution de cette crise-là. Donc, on avait vraiment souhaité à ce que ces groupes-là soient cantonnés et désarmés. Mais on a vu que ces groupes n'ont jamais été cantonnés. Ils ont continué à parader comme des rois à travers les rues de Kidal et dans d'autres localités maliennes, ce qui est vraiment dommageable. Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on va dépasser cette étape-là pour pouvoir véritablement en venir à un accord définitif. Parce qu'on a vu que, qu'on le veuille ou non, ils ne vont pas désarmer. Quelle que soit notre bonne foi, quelle que soit toute notre implication, on se pose des questions un peu sur tous les différents intervenants dans la résolution de cette crise-là. Donc pour le moment, on n'a pas le choix, quoi. On va faire comme on doit le faire et puis on va essayer d'en venir à une négociation, une résolution définitive de la crise pour avoir un accord définitif.
Alors, Dissa Diawara, vous êtes politologue. Votre avis sur l'accord de Ouagadougou?
Bon, l'accord de Ouagadougou nous a permis déjà d'organiser des élections crédibles, élections présidentielles, élections législatives. Il fallait d'abord que le Mali, le gouvernement, l'autorité malienne devait mettre ça sur table, en application. Mais c'est pas trop tard. On peut toujours revenir là-dessus, voir les amendements, corriger les défaillances et mettre les nouveaux. Mais je pense aujourd'hui qu'à l'heure où nous sommes, c'est avec l'accord de Ouaga qu'on peut commencer les discussions. Avec le MLLA, avec les autres groupes armés, il faut faire venir tout le monde sur la table de négociation. C'est impératif.
Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes membre du MNLA, vous intervenez depuis la Mauritanie. Quel est votre avis sur les préalables aujourd'hui des deux côtés, tant de votre côté les groupes armés et du côté également du gouvernement malien?
Moi, je pense que la partie malienne qui avait essayé d'utiliser la question du désarmement comme motif n'est pas ouvert la discussion, savait très bien que le désarmement n'était prévu dans l'accord de Ouagadougou qu'après la signature d'un accord global de paix. Et d'ailleurs, la mission du Conseil de sécurité était à Blanco l'a clairement notifié qu'il fallait d'abord négocier, ensuite on passera au désarmement. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris conscience de la réalité. Pour nous, les négociations doivent démarrer. Maintenant, il faut que ça démarre dans un pays neutre. Il faut que ça démarre entre les partis en belligérance politique. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements qui naissent de partout, qui sont des fois la construction orchestrée de Bamako ou de l'Algérie, afin de charger les répertoires des intervenants sur la table. Ces mouvements-là, si déjà ils se reconnaissent de la partie malienne, pourquoi ne pas faire confiance à leur gouvernement et laisser leur gouvernement, par son médiateur, négocier? Donc, il faut que la négociation se déroule entre les parties. Ils sont vraiment en belligérance politique. Aujourd'hui, le MNLA est en tête de ces partis-là avec les groupes comme les Hauts Conseils et les MAA qui ont suivi. C'est ça, il faut trouver les vrais acteurs de la négociation d'abord.
Ataï.
Ensuite, les liens.
Oui. Allez-y.
Allô?
Allez-y.
Ensuite, les liens de la négociation. Ensuite, viendra maintenant les médiateurs. Les médiateurs, aujourd'hui, il faut un médiateur qui, d'abord, garantit ce qu'il va cautionner, et qui puisse aussi suivre de près l'application de ce qu'il va signer. Et ça, aujourd'hui, un État ne peut pas le faire. Un État uniquement ne pourra pas le faire.
Alors, Ataï, aujourd'hui, l'un des points majeurs de cette crise, de la résolution de cette crise, reste la réintégration des combattants. Cela sera difficile de le faire au sein de l'armée malienne aujourd'hui. Que vont devenir les combattants?
Ça, c'est le discours de Bamako. Nous n'avions jamais revendiqué une réintégration dans le corps de l'État malien.
Mais que vont devenir les combattants?
J'en viens. Nous voulons discuter, nous voulons négocier sur un statut juridique et politique de l'Azawa dans un Mali intégral. C'est ce que nous voulons discuter. Et c'est dans cette autonomie ou dans cette fédération ou dans cette forme d'autogestion à la base que tous les services militaires, les services de base vont être employés à l'intérieur de cet espace-là. Dans un Mali unitaire, c'est ce que nous voulons négocier. Nous ne négocions pas des salaires pour les personnes.
Aujourd'hui,
on est en train...
Un détail également, aujourd'hui on a appris que il y a la charia qui est en passe d'être appliquée à Kidal. Est-ce que vous confirmez cette information?
C'est absolument faux. Il n'y a pas. Ce sont des presse qui est utilisée pour véhiculer ces messages-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes, même d'ailleurs à Bamako, il y en a. Il y a des personnes qui ont des prétentions, qui tiennent des discours intégristes ou religieux, ce sont des discours. Mais ce ne serait plus comme avant. Personne ne viendra imposer la charia par les armes à quelqu'un dans l'Azawa aujourd'hui.
Donc vous êtes pour un Mali laïque?
Nous, les MNLA, nous avons toujours défendu la laïcité, on a toujours dit. Et si nous avions été la cible d'attaques terroristes et de combats contre les groupes djihadistes, c'est parce que nous leur avons dit que leur forme de gestion ou leur forme de revendication ne sont pas les nôtres. Nous sommes des populations laïques. Nous voulons, si aujourd'hui, un jour, il doit y avoir une loi... à la fin de la base de l'islam, il faut que ce soit la volonté du peuple, soit que ce soit un choix par référendum. Donc, aujourd'hui, si les groupes terroristes aussi qui sont les moteurs de cette forme de gestion ou de cette forme d'autorité sont contre nous aujourd'hui, la Serval est là, la MINUSMA est là, comment est-ce qu'ils pourraient comprendre qu'à l'intérieur d'une ville où il y a la MINUSMA, la charia s'appliquerait?
Merci beaucoup, Ataï. Ce point de vue est compris. Ne partez pas, vous restez avec nous pour la suite du débat. Amadou Goïta, le médiateur de la CDAO, a rencontré pratiquement toutes les forces vives de la nation au Mali. Les partis politiques sont passés également dans ce lot-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, de ces multiples rencontres du président Blaise Compaoré avec les forces vives de la nation?
Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose puisque on ne peut pas intervenir au nom du Mali. On ne peut pas vouloir trouver une solution politique du dossier du Nord qui a tellement secoué, qui a même failli emporter les fondements de la nation sans écouter d'abord tous les acteurs politiques, économiques et même de la société civile. Nous estimons que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va négocier. Je viens d'écouter tout de suite le représentant du MNLA. J'espère que si on le prend au mot, il ne remet pas en cause l'intégrité territoriale du Mali, il ne remet pas en cause la forme républicaine du Mali. Mais le plus important aujourd'hui, est-ce que les accords de Ouaga peuvent encore nous permettre? Est-ce que ça peut être un support pour ces négociations? Parce que moi, j'estime que à partir déjà des accords du cessez-le-feu du 23 mai, où le MLLA a même refusé que le Mali récupère sa position d'attente avant les événements du 21 mai. Quand on prend les accords de Ouaga, certes, on n'avait pas parlé de désarmement, mais on avait parlé de cantonnement. Je pense que c'est l'armée malienne qui était cantonnée à Kidal, mais non, le MLLA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut redéfinir encore une autre feuille de route pour savoir maintenant quel accord définitif on peut trouver par rapport à ce conflit qui a duré depuis 50 ans, qui a fait autant de veuves, qui a fait autant d'orphelins, et qui aujourd'hui est en train même de saper les fondements même de la République du Mali. Nous sommes pour un dialogue inclusif, nous sommes pour une solution de paix durable, mais que l'intégrité territoriale du Mali ne souffre donc l'homme d'aucun doute.
Alors, Amadou Goïta, voilà. Vous êtes de l'opposition. Est-ce qu'on peut savoir ce que le président Blaise Compaoré a dit à l'opposition?
Non, je n'étais pas à la rencontre. Hier, il a rencontré surtout l'opposition parlementaire. N'ont pas eu le temps de faire une réunion pour que nos amis de l'URD et du Paraná nous fassent la restitution. Donc, je ne saurais m'apesantir sur ça.
Donner le contenu. Voilà. Okay. Alors, Surakata, un mot sur ces multiples rencontres du président Blaise Compaoré avec à la fois les partis politiques, le représentant spécial du président de la République et d'autres.
Je pense que ces rencontres sont nécessaires. Ça permet aux médiateurs de mieux appréhender les problèmes. C'est vrai qu'il est au fait de tout ce qui se passe, mais il n'avait jamais été lui-même directement impliqué À part la rencontre qu'il y a eu à Ouaga, habituellement, ces émissaires qui viennent, notamment son ministre des Affaires étrangères et puis un peu avant l'ambassadeur du Faso qui intervenait. Cette fois-ci, lui-même, il est sur le terrain, rencontrer l'ensemble des acteurs politiques maliens, pas seulement le pouvoir de Bamako, mais également l'opposition, la société civile, pour savoir véritablement ce que les Maliens pensent de cette situation-là. Parce qu'à un certain moment, il n'y avait que deux entités en face de lui. Le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir malien, et puis c'est les représentants de ces groupes-là. Mais cette fois-ci, il a l'opportunité de savoir véritablement ce que la population, c'est-à-dire jusqu'en bas, tout ce que tout le monde pense de cette situation-là. Il pourra mieux appréhender ce problème-là. Et je pense que le président du Faso est un ami du Mali. Ça va permettre de mieux gérer cette situation-là et de nous ramener dans la situation d'antan, c'est-à-dire un Mali uni, une république laïque avec l'ensemble de ces 8 régions, y compris Kidal.
Alors, Drissa Diawara, vous êtes politologue. Qu'est-ce que vous pensez de ces multiples rencontres du président Blaise Compaoré?
Bon, moi, je me dis que après la rencontre avec les partis politiques, réellement, nous devons trouver une solution durable. Et que dès qu'il commence déjà à rentrer en contact avec les partis politiques, la société civile, nous devons nous retrouver avec une solution pour aider le président à sortir de la crise. Mais en écoutant l'opposition, c'est très très délicat. Il faut qu'il écoute l'opposition, il écoute la société civile et que le gouvernement peut faire le travail. Mais en mettant il faut mettre tous les documents nécessaires sur la table, quoi.
Okay. Alors, nous allons observer peut-être quelques secondes de pause. On me fait signe que cela n'est pas encore le moment. Alors, je vais demander à Ataï. Ataï, est-ce que vous avez suivi ce déplacement du président Blaise Compaoré au Mali?
Absolument, nous avons bien suivi le déplacement de Blaise Compaoré au Mali. D'ailleurs, le ministère Bokeh des Affaires étrangères a aussi parallèlement contacté des membres des mouvements pour aussi prendre leur avis par rapport à tout ça, au moment où il était à Bamako. Nous suivons de près tout ça, c'est bien.
Est-ce que vous pensez que le salut vient de cette démarche du président Blaise Compaoré d'aller vers les différents acteurs du processus?
Mais c'est logique parce qu'aujourd'hui, les différents acteurs sont disponibles à écouter. Avant, ils ne voulaient écouter personne. Avant, il y avait la fougue Vatanguerre. Chacun pensait qu'il était celui qui devrait faire plus de choses. Aujourd'hui, ils se sont calmés. Chacun est disponible à écouter. Ils ont commencé l'autocritique interne. Ils sont meilleurs pour écouter un interlocuteur qui vient leur poser des questions. Donc, c'est bien qu'il ait les écouter. Aujourd'hui, on a senti aussi que l'opinion malienne a commencé à se saisir réellement de l'enjeu qui constitue ce problème-là, qui minimisait pour une question de banditisme ou de ne sais quoi, ou qu'il voulait aussi faire coiffer par une question de terrorisme. Beaucoup de Maliens comme moi, ne sont pas nés quand les problèmes ont commencé. Donc c'est ça les critiques aujourd'hui. Donc c'est très important qu'il ait à les écouter. C'est très important qu'une partie des Maliens aujourd'hui comprennent que le gouvernement en place a failli aller très loin et a failli rater quoi, et mettre les Maliens à genoux une seconde fois.
Alors ça fait plaisir à taille de vous. Ça fait plaisir à taille de
vous. Non,
pour nous, ça fait plaisir pour la réconciliation que vous vous sentez malien à Taï. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Binkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Vous pouvez nous suivre sur notre vingtaine de stations, sur nos notre vingtaine de stations radio partenaires. N'oubliez pas de faire également un tour sur notre site web et sur notre page Facebook. Le président Blaise Compaoré du Burkina Faso et médiateur dans la crise malienne est en visite au Mali et nous tentons de donner un contenu à cette visite. Le troisième volet est consacré à la question qui est de savoir si cette visite est celle de la dernière chance pour les Maliens. Nos invités, Amadou Goïta du Parti Socialiste, Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA, Surakata Simega, parti du Parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara et Drissa Diawara, politologue. Cette visite est-elle celle de la dernière chance, Amadou Goïta, du Parti Socialiste?
Non, vous savez, la paix se construit lentement et sûrement. Je ne pense pas qu'il faut aller à des ultimatums par rapport à la construction de la paix. Nous avons été confrontés pendant 10 mois à une absence de dialogue où les autorités d'alors ont voulu gérer le pays en n'écoutant que la rue, il faut le dire. Nous ne voulons pas négocier avec des gens en armes. Nous ne voulons pas qu'on acceptera plus qu'on se hisse à notre niveau. Or, quand on vient dans un pays, quand on hérite d'un pays comme le nôtre, un pays qui a connu une crise aussi aiguë, un pays qui a bénéficié de l'accompagnement de l'ensemble de la communauté internationale, on doit aussi être à mesure de comprendre l'évolution de la situation. Je pense que 10 mois après, nous nous sommes rendus compte que seuls nous ne pouvons rien. Nous nous sommes également rendus compte que notre armée est une armée qui est en restructuration, est une armée qu'on est en train de construire, et que lancer notre armée comme ça, une bataille, ce n'est pas facile. Et voilà, les autres ont compris. Je suis très heureux d'entendre le représentant de Yelema dire que Blaise est un ami du Mali. Je crois qu'il y a eu des moments qui sont partis au pouvoir, ont tiré à boulet rouge sur la CDAO, ont tiré à boulet rouge sur les médiateurs, ont tiré à boulet rouge sur même l'opposition en disant que l'accord de Ouaga n'était que l'accord de Tchèblen Dramé. Aujourd'hui, ils réclament cet accord. Aujourd'hui, ils utilisent même cet accord comme étant la seule porte de sortie. Je pense que c'est une très bonne chose. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous, nous estimons tout simplement qu'il faut aller à la paix. La seule guerre que nous devons mener aujourd'hui, c'est la guerre pour le développement du Mali, c'est la guerre contre le chômage, c'est la guerre contre la pauvreté, c'est la guerre contre la misère.
Alors, Surakata, est-ce que cette visite est la visite de la dernière chance pour les Maliens?
Je ne parlerai pas de visite de dernière chance. Je pense que c'est une visite dans un cadre bilatéral, mais également, Blaise étant le négociateur, il est donc normal qu'on parle des sujets qui sont à l'ordre du jour, parce que c'est vraiment une chose importante pour le Mali au jour d'aujourd'hui. Et je voudrais porter la contradiction à mon aîné Amadou Goïta quand il dit que le pouvoir gère en tenant compte de la rue. Ah non, seulement à un moment, le Mali s'est senti floué, parce qu'on a vu que l'accord, les accords préliminaires de Ouaga n'étaient pas respectés comme on le voulait. Les groupes n'étaient pas cantonnés, et ça on ne pouvait pas le comprendre. Comme lui-même il a eu à le dire, c'est plutôt l'armée qui était cantonnée. Donc c'est juste ces petites choses-là qu'on dénonçait. On voulait vraiment que les choses soient appliquées comme il le faut avant de vraiment passer à l'étape suivante. Et c'est juste ça. Sinon, on n'a jamais géré en fonction des humeurs de la rue. Je pense que le président Ipeka est suffisamment outillé. Et son premier ministre est assez sage. Donc ils vont gérer, on pourra sortir de cette situation-là, Inch'Allah.
Je rappelle que vous êtes membre du parti Yelema, parti du premier ministre. Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes membre du MNLA. Est-ce que le Mali peut se permettre, le Mali, enfin les acteurs de cette crise, le Mali, le gouvernement malien et les groupes armés peuvent se permettre aujourd'hui qu'il y ait une autre crise?
Bon, ça dépendra du comportement de chaque parti. Aujourd'hui, nous sommes à 50 km de Gao, nous sommes à 50 km de Tombouctou. Mais jusqu'ici, nous observons ceci les faits. Depuis le 23 mai, on nous a déjà dit de nous arrêter, on s'est arrêté, et puis il n'y a pas de vagues. Cela explique que nous avons une volonté de respecter nos engagements. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en position de force, c'est parce que nous savions aujourd'hui que tout le monde est conscient qu'il faut aller vers une résolution politique. C'est déjà un acquis aujourd'hui, c'est déjà un acquis. En écoutant vos interlocuteurs sur la table, je sens que le discours il est équilibré. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois où je participais à des débats sur cette même station. Et l'autre truc, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs étrangers même qui sont là, ils sont arrivés à bout de souffle. Il n'y a plus d'argent. L'administration n'a pas de moyens. La France ne veut plus mettre de fonds. Donc, soit nous qui sommes les acteurs, prenons conscience de la nécessité de faire des concessions sur nos discours et d'aller vers une paix qui va ramener la vraie réconciliation et non celle des discours, ou bien on va se retrouver abandonné par tout le monde. le terrorisme n'est pas seulement dans la Zawada. Il existe partout. Aujourd'hui, ils sont en répit. Et si nous ne faisons pas vite pour ramener des institutions sérieuses qui sont consentantes pour toute la population, nous allons encore revivre des catastrophes. Donc c'est ça le vrai danger aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut discuter de ce qui d'un sort politique sérieux. Il faut distinguer entre la négociation, les pourparlers, le dialogue inclusif et la réconciliation, parce qu'il ne faut jamais mettre la charrie avant le dé, chose que le gouvernement malien a failli faire en organisant des séances inclusives ou informelles à Bamako, comme s'il n'y avait rien à faire. Donc il ne faut pas retomber dans la même erreur.
Alors, Ataï, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au retour, au programme de retour des réfugiés aujourd'hui? Est-ce que la sécurité permet ce retour des réfugiés?
Les réfugiés avaient fui quoi, pour la plupart? Pour la plupart des réfugiés aujourd'hui qui sont restés à l'étranger avaient fui les exactions des armées maliennes ou des islamistes. C'était clair. La majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas des pays isolés affectés par des armées qui sont d'autres groupes, mais pour la plupart des réfugiés lambda que tu vas demander, tu diras qu'on a fui parce qu'on a peur d'exactions comme en 90. Donc, ils reviendront lorsqu'il y aura une situation stable. Les réfugiés aussi adhèrent à l'idée qu'il faut aller vers une paix durable, vers une paix qui leur permet de s'autogérer chez eux à la base, sans pourtant avoir besoin de Bamako pour survivre au moindre des choses. Donc, c'est ça que les réfugiés attendent. Ils attendent aussi les processus politiques. Ils attendent qu'ils soient sûrs que pour cette fois-ci, c'est pour des bons. Et qu'on n'aura pas à revivre la même situation de 2012 et qu'on n'aura pas à vivre des petites intégrations de 1500 éléments descendant à la garde ou à la police. Pourquoi qu'on a fait la paix? Ça, ce sont des intérêts qui reviennent à des personnes. Il faut aujourd'hui négocier sur ce qui revient à la terre. Car si tout ce qui va dans la terre va à toute la population, sans distinction aucune. Et tous les programmes de développement, ils ne sont jamais ethniques, c'est des programmes de développement qui iront à l'intention des espaces. Et c'est un espace, il y a toutes les communautés. C'est ça qu'il faut discuter aujourd'hui.
Alors, Amadou Goïta.
Oui, moi, en écoutant M. Agu, je suis un peu désolé. Les réfugiés ont quitté le Nord parce que c'est vous, des MLLA, qui les avez imposé la guerre. C'est vous, des MLLA, qui avez amené les narcotrafiquants, les djihadistes, pour remettre en cause l'intégrité territoriale du Mali. Donc, parler des exactions de l'armée malienne, je pense qu'il est mal placé pour en parler.
Alors, aujourd'hui, avec cette visite, on tente de tout remettre à plat, Amadou Goïta. Et qu'est-ce qu'il faut prévoir comme plan de retour aujourd'hui des réfugiés?
Ce qu'il faut prévoir comme plan de retour des réfugiés aujourd'hui, il faut sécuriser d'abord. Il faut sécuriser l'ensemble de la partie nord du Mali. Il faut que le MLLA comprenne qu'il ne peut pas continuer à défier l'autorité de l'État. Il ne peut pas continuer à défier le Mali. Aujourd'hui, il y a eu certes les événements de 17 du mai, du 21 mai. Certes, mais aujourd'hui, ils doivent retourner à leur position d'antan. On ne peut pas construire la paix tant qu'on ne s'y engage pas. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement.
Alors, le Premier ministre l'a dit lors de son retour de Kidal, il n'y a pas que le MNLA dans les régions du Nord. Est-ce que le MNLA ne se sent pas aussi envahi par les djihadistes?
Oui, je suis d'accord. Pour nous, le pouvoir même doit avoir un discours clair en la matière. Parce que tantôt, on dit que c'est les djihadistes qui sont au Nord, à Kidal. Tantôt, on nous parle des MNLA, tantôt, on nous parle des Hachia. Il faut savoir qui est à Kidal. Si c'est le MNLA qui est en collusion avec les djihadistes, ce qui est sûr, le Mali ne peut pas négocier avec les djihadistes. Ce qui est sûr, le Mali ne peut pas négocier avec les narcotrafiquants. Là, le pouvoir doit avoir un discours clair, net et précis. Et le pouvoir doit tout faire. Ak vient de dire qu'ils sont à 50 km de Kidal, de Gao, qu'ils sont à 50 km de Tombouctou. Avant le 17 mai, on était à Kidal. Aujourd'hui, on est à 50 km de Gao. On est à 50 km de Tombouctou. Tout ça, le pouvoir doit jouer également sa partition pour que nous puissions retrouver notre position d'attente avant les événements de 17 mai.
Un dernier mot sur la sortie de crise sur la Katasimika du parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Samara.
Je veux juste dire que notre interlocuteur du MNLA, comme toujours, ils ne sont pas de bonne foi. Quand il dit que c'est le Mali qui fait qui a conduit la situation des réfugiés, là, c'est plutôt eux qui ont commencé cette guerre-là. C'est à cause d'aujourd'hui que ces gens-là sont à l'extérieur. Les exactions, ils parlent des actions, les exactions ont commencé quand? Et ces réfugiés-là sont là-bas à l'extérieur depuis 2012. De par leur faute, ils ont mis ce pays-là à genoux et ils ont toujours tout fait pour ne pas que Kidal sorte du gouffre. Parce que ça, c'est leurs propres intérêts. Ils arrivent à se faire de l'argent. De père en fils, ça a toujours été comme ça. Et c'est juste un groupuscule qui parle au nom du mouvement Touareg. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Un mot pour la paix aujourd'hui?
Voilà, maintenant pour la paix, je pense qu'il faut vraiment revenir aux accords de Ouaga.
Les accords de Ouaga demandent le cantonnement des groupes armés à Kidal. Revenons aux accords préliminaires de Ouaga et avançons.
Alors, le cantonnement, c'est bien compris. Attaï parlait tout à l'heure d'accords préliminaires, d'accords politiques. Est-ce que cela est envisageable aujourd'hui avec le gouvernement?
On ne peut qu'aller vers cet accord politique-là. On n'a pas le choix. Mais il faut aller sur une base. Et c'est cette base-là, c'est quoi? C'est que ces groupes-là soient cantonnés. C'est beaucoup plus facile à gérer. Parce que maintenant, on n'arrive pas à gérer les mouvements, vu qu'ils sont en complicité avec des groupes groupes terroristes et autres, tout ça, des narcotrafiquants. Donc, c'est assez difficile à gérer. Pendant qu'on avance, il y en a qui nous empêchent d'avancer. Donc, il faut qu'on ait une situation claire et on finit définitivement avec cette situation-là.
Alors, Ataï, un mot sur la paix, la stabilité au Mali? Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA.
Ce que je regrette, c'est encore on nous ramène sur l'histoire des narco-djihadistes, narco-terroristes. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a des narco-terroristes à la Zawane, c'est qu'on accuse aussi la MINUSMA et servant d'être complice. C'est-à-dire que l'État malien est en train d'accuser aussi la MINUSMA de complicité parce qu'aujourd'hui, ils sont tous sur place. Il y a les renseignements qui sont assez ouverts sur toutes les zones. Donc en disant que la MINUSMA a laissé des djihadistes être à Kidal ou des narcotrafics être à Kidal, ça veut dire que vous accusez toute la communauté internationale. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, ce sont les forces politico-militaires de l'Azawad qui sont les belligérants du gouvernement central de Bamako. Et c'est ce qu'il faut régler politiquement.
La paix, Ataï.
J'espère que ce mois de Ramadan là va nous redonner encore plus de baraka afin qu'on revienne à la réalité et qu'on assume nos responsabilités pour aller vers la paix du peuple, la paix de tous les musulmans.
Nous resterons sur cela avec vous, Ataï. Merci beaucoup d'avoir pu participer à cette émission malgré les aléas de la technique. Un mot peut-être, Diawara?
Bon, nous avons intérêt que ça marche. Nous devons tout faire pour que ça marche. On n'a plus droit à l'erreur.
Ouais. Alors, un mot pour la paix? Amadou Goïta, du Parti Socialiste.
Je souhaite qu'on retrouve la paix au nord du Mali, que les cœurs et les esprits se retrouvent.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'entendre que Ataï Ag Mohamed, qui est membre du MNLA, se sente malien? Qu'est-ce que cela vous fait?
Bon, je crois que ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de comprendre que le Mali est indivisible. Maintenant, c'est le dit, on souhaite que les actes accompagnent ces propos.
C'est aussi une volonté.
Oui, c'est une volonté.
Merci beaucoup, Amadou Goïta. Merci à vous, messieurs, d'avoir été des nôtres. Alors, diffusion d'un documentaire, cette nouvelle du Studio Tamani. Nous faisons un peu de publicité. Voilà, diffusion d'un documentaire Studio Tamani et Onde de choc ce jeudi 3 juillet à l'Institut français de Bamako. Une occasion de découvrir le fonctionnement du Studio Tamani et plus largement le travail de la Fondation Hirondelle dans la promotion d'une information indépendante et responsable. La diffusion sera suivie d'un débat. Des journalistes de Studio Tamani répondront aux questions du public. Alors, des réactions ou des remarques sur ce débat et les autres débats. Le débat se poursuit sur la page Facebook de Studio Tamani. Vous avez des réactions ou des remarques, venez débattre sur la page Facebook de Studio Tamani. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Le Grand Dialogue réfléchissait sur le sens de la visite du président burkinabé Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Les trois point de ce débat, le bilan de la médiation de la CEDEAO dans le premier volet. Quel agenda prévoir dans le second? Cette visite est-elle celle de la dernière minute? Nous l'avons évoqué dans le troisième volet. Alors nos invités, Amadou Goïta du Parti Socialiste, Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA qui intervenait depuis la Mauritanie, Surakata Simega du Parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara, et Drissa Diawara, politologue, nous accompagnaient. Moi je suis Famoussa Sidibé, assisté à la technique par Peting Diara. Ousmane Diadi Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.